Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Donc, en fait, je trouve que c'est important, il faut savoir partager, il faut savoir donner et il faut donner sans attendre parce que finalement, encore une fois, c'est comme l'entrepreneur qui crée un projet et qui pense à l'argent. Il ne faut pas penser à l'argent. Il faut penser à faire des choses avec le mieux possible. Et quand on fait les choses bien, l'argent viendra. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le but. Et puis si on a la chance d'avoir fait des projets qui marchent et qu'on a gagné de l'argent, il faut savoir le redistribuer, le redonner et aider ceux qui n'ont pas forcément eu la chance. Parce que pour moi, il y a une grosse partie de chance dans la réussite quand même.
L'interview que vous allez entendre est réalisée grâce à Marc Fiorentino. Non, ce n'est pas un sponsor, c'est mon premier patron, devenu un ami maintenant. C'est lui qui m'a dit récemment, il faut absolument que tu rencontres Pascal Chevalier. Puisque je suis un enfant biberonné à la presse, journaliste de formation et évoluante dans ce secteur, ce nom m'évoquait forcément quelque chose. Alors oui, il était hors de question pour moi que je passe à côté d'une rencontre avec l'homme qui a bouleversé un pan entier de l'économie qui me passionne, à savoir celle des médias. Il est à la tête du groupe qu'il a fondé, qui s'appelle Reworld Media. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je vais vous donner quelques chiffres. 483 millions d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA de 37,2 millions d'euros. Par des acquisitions successives, notamment Mondat Dory France, Reworld Media est aujourd'hui le leader français des médias thématiques. Il a une audience de 17 millions de visiteurs uniques mensuels, 150 millions d'exemplaires vendus sur l'année 2018, 2,4 millions d'abonnés à ses magazines, 21 000 vidéos propriétaires et 9 millions de fans et followers sur les réseaux sociaux. À son actif, il a plusieurs dizaines de marques médias, comme Marie France, Gradia, Bi, Biba, Maison et Travaux, Télémagazine, Automoto, Science et Vie, Auto Plus, Le Chasseur Français et bien d'autres. J'avais entendu des choses concernant Pascal Chevalier, mais j'ai toujours préféré me faire mon opinion à moi-même et j'ai pas été déçue. Je ne m'attendais absolument pas à rencontrer une incarnation aussi puissante de ce que j'appelle l'entrepreneur positif. En fait, je pense qu'il a peur de rien ou en tout cas pas grand-chose. Avec lui, on a parlé de la nécessité de voir les choses en grand lorsque l'on entreprend, de la transformation qui dérange quand on veut bouger des lignes, de l'économie des médias, bien entendu, de la dimension humaine dans la reprise d'entreprise, de marketing digital, de 50 partners, de sport, des régions françaises, de sa vision de la France, du don et du partage nécessaire avec son équipe lorsque l'on veut être un patron ou une patronne, nouvelle version. Un jour, on m'a dit « la vie, c'est comme la bicyclette ». Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Eh bien, je pense qu'il y en a qui avancent un peu plus vite que la moyenne et qui, au passage, distillent de l'énergie positive. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Pascal Chevalier, fondateur et PDG de Reworld Media. Pascal Chevalier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie. J'ai suivi, bien entendu, de près que vous avez accompli dans le secteur des médias au sens large. Mais je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas dans un premier temps, de vous présenter autant personnellement que professionnellement.
Je suis un entrepreneur et c'est important de le préciser parce que finalement, tout ce que j'ai fait dans ma carrière est dicté un peu par cette culture entrepreneur. J'ai démarré, je suis plutôt un ingénieur moi, de formation, donc j'ai démarré plutôt dans la partie technologique, mais très rapidement, en fait, j'ai préféré être entrepreneur et prendre mon destin en main plutôt que d'essayer de suivre une carrière toute tracée. Donc ça fait maintenant plus de 25 ans finalement que je crée des entreprises dans le domaine de l'innovation et de la technologie.
Vous n'avez jamais été salarié ?
J'ai été salarié, je pense, 2 ans dans ma vie au début. Mais finalement, une fois qu'on a pris le virus d'entrepreneur, on ne peut plus y revenir parce que j'aime le risque même s'il est maîtrisé. Puis finalement après, une fois qu'on a fait une première entreprise puis une deuxième, le risque est quand même tout à fait relatif. J'adore faire quelque chose où on me dit c'est impossible. Enfin, il y a un côté finalement un peu fou dans l'entrepreneur. Et je pense d'ailleurs qu'il faut vraiment être un peu fou pour être entrepreneur. Il y a un côté des fois un peu très risqué où on se dit mais puisque tout le monde a dit qu'il fallait pas le faire, justement on y va. Donc c'est un peu tout ça, je trouve, qui est intéressant. Et puis à partir du moment où les choses commencent finalement à marcher, ça crée une certaine fierté et voilà, ça fait partie un peu de la vie de l'entrepreneur. Donc, je suis avant tout un entrepreneur et c'est vraiment ce qui me motive. Et puis ensuite, sur la partie professionnelle, finalement, toute ma carrière, elle a été dictée par l'évolution de l'Internet, des évolutions technologiques. J'ai commencé dans le domaine du logiciel, puis ensuite dans le domaine des, on va dire, des web agencies dans les années 2000. Puis ensuite, il y a eu la vague de tout ce qui était marketing digital avec une société qui s'appelait NetBooster. Et puis finalement, dans l'histoire de Reworld Media en 2012... Je dépensais finalement beaucoup d'argent, non pas dans les groupes médias, mais plutôt chez Google et chez Facebook pour le compte de mes clients. Et je me suis dit, mais finalement, il y a un problème en France. Je pense que les groupes médias n'ont pas vraiment compris ce qui se passe avec Internet. Ils subissent plutôt qu'autre chose. Et donc, on revient sur le défaut de l'entrepreneur. Moi, je vois ça plutôt comme une qualité, c'est de dire, bah, finalement, je vais le faire. Et donc, en 2012, je décide d'investir et de regarder le marché des médias. La première personne que je rencontre dans ce secteur, qui est devenu mon associé, Gauthier Normand, il était à l'époque à la Tribune. Et je me dis, je vais pas faire ce marché des news parce que finalement, je pense que le modèle économique est très difficile. Mais par contre, le gars est génial et on va faire un projet ensemble. Et on a démarré à deux dans un petit bureau. En 2012, ce formidable projet, 2200 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires après... après 7 ans maintenant, et on se retrouve avec le premier groupe de médias thématiques sur le marché français. Voilà.
Est-ce que justement vous pouvez nous faire une carte d'identité, mais même s'il y a des informations que vous ne pouvez pas communiquer, mais voilà, si demain quelqu'un écoute ce podcast et n'y connaît absolument rien, comment vous décrivez Reworld Media aujourd'hui ?
C'est un groupe de médias qui est capable de produire aujourd'hui à travers les différentes marques que l'on a. Je parle plus de marques médias finalement aujourd'hui parce que le lecteur souhaite nous voir, nous entendre, nous rencontrer tous les jours sur les différents supports. Et donc je suis un groupe média qui va donc créer du contenu et diffuser à travers nos marques et à travers les différents diffuseurs qu'il peut avoir. Alors les diffuseurs, bah, finalement les leviers de diffusion, bah, c'est le magazine, c'est sites internet, c'est sur les newsletters, c'est nos podcasts, c'est nos émissions sur YouTube, enfin etc. Mais c'est aussi des événements qu'on à créer et des chaînes de télé. Donc finalement, on est un multidiffuseur. Puis on est également un créateur avec les marques médias fortes que l'on a. C'est Science et Vie, c'est Grazia, c'est Chasseurs Français, c'est Marie France, c'est Automoto, c'est Auto Plus, c'est Top Santé, enfin etc. C'est Closer, etc.
Même si, encore une fois, vous ne parlez pas de ce que vous voulez pas dire, hein, bien entendu, mais vous avez eu un process d'acquisition externe, enfin de croissance externe avec des acquisitions de journaux. Aujourd'hui, je crois que vous avez presque 50 marques. Enfin, je ne sais pas si vous appelez ça des marques ou des titres, mais...
Des marques, 46 marques, ouais.
En termes de chronologie, c'était d'abord, je crois qu'il y a eu Lagardère, il y a eu Axel Springer, il y a eu Mondadori.
Alors, dans la chronologie, on a démarré par des acquisitions qui ne sont pas visibles parce qu'en fait, c'était la partie... un petit peu hébergée de l'iceberg, c'est la partie technologique, la data, donc des boîtes dans le domaine de la data, la technologie, et qui finalement... Le marché est complexe, mais il y a beaucoup de technologies, donc on a déjà commencé sur cette brique-là. Et ensuite, quand on a racheté des marques médias, on a commencé par Marie France, qui est la première marque que l'on a rachetée. Puis, c'était les magazines qui sont vendus en devant de caisse des hypermarchés de France, Gourmand, Papy, enfin, etc. Puis, il y a eu Lagardère avec Automoto, Maison et Travaux, Campagne Décoration, Journal de la Maison, etc. Puis, dernièrement, Mondadori. Et pardon, excusez-moi, il y a eu entre les deux, il y avait quand même Sport Ever. C'était pas la partie presse, mais c'était la partie chaîne de télé, avec une chaîne qui s'appelait Sport 365.
D'accord. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, comment on fait tout ça ? Enfin, sur le comment, même si on peut pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, avec Lagardère, j'ai cru comprendre que c'était plutôt eux qui ont fait un chèque concrètement pour reprendre les titres. Qu'est-ce que vous retirez en termes de négociation ou de... Je suis persuadée que les gens qui suivent votre parcours se disent, mais comment il a fait ?
Alors, en fait, tout ça, je pense que c'est une histoire d'énergie des entrepreneurs. La première entreprise que vous créez, vous donnez des objectifs comme tout le monde et vous essayez de voir le plus haut possible que vous puissiez imaginer. Puis le jour où vous atteignez ce point qui est le plus haut possible pour vous, vous dites, bah, finalement, je vais fixer un point encore plus haut. Et finalement, je trouve que ce qui est très intéressant dans l'énergie d'entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de limite à la folie de l'entrepreneur et donc à sa croissance. Lorsqu'on a démarré ce groupe avec Gauthier Normand, on s'est dit, faudrait vraiment qu'on fasse 100 millions d'euros. Puis le jour où on les a fait, on se dit bon bah on va aller faire plus loin, etc., etc., etc. Et puis pour aller au bout de l'anecdote, là maintenant 7 ans après à 500 millions d'euros, on a fait une réunion avec tous nos managers il y a quelques temps et je leur ai dit presque en plaisantant, je leur ai dit bon allez maintenant on y va, on va faire un milliard. Et finalement ils n'ont pas du tout réagi et ils ont noté en disant bon bah super on y va. Alors d'un côté je me suis dit c'est dommage, j'aurais dû dire 2 milliards, ils auraient accepté. Et l'autre côté, je me suis dit, c'est quand même dingue parce que cette énergie d'entrepreneur et la contagion que ça peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une énergie dans cette boîte d'entrepreneurs où ils sont tellement sûrs que ça va continuer de croître, etc. Parce que finalement, ça fait 7 ans que la boîte marche bien, que si demain, on leur donne un objectif qui est quand même pas moindre, donc je parle de doubler le chiffre d'affaires, ça leur fait pas peur. Et ça, je pense que c'est cette capacité finalement à diriger, à emmener des équipes dans un projet entrepreneur, ça c'est vraiment cette force-là. Et finalement, la clé du succès pour moi dans ce projet, c'est l'énergie des équipes. Finalement, cette société, c'est pas uniquement la société de Gauthier Normand, Pascal Chevalier, c'est la société aujourd'hui de 1200 collaborateurs qui sont entrepreneurs. Une grosse partie d'ailleurs, quasiment 200 personnes sont actionnaires. C'est leur boîte tout autant que la nôtre. Ils l'ont créée, ils la vivent au quotidien et l'énergie, elle est collégiale. Et quand vous rencontrez n'importe qui dans la boîte, quand vous prenez dans les couloirs, vous vous dites, ils ont une grosse patate, ils ont une grosse énergie. Et ça, en fait, je trouve que c'est très intéressant. Donc pour moi, la première clé du succès, c'est l'énergie des entrepreneurs que l'on peut mettre au service du projet. Et ensuite, c'est le deuxième point, en fait, il faut être très ambitieux. Parce que finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je suis là pour fixer en fait une vision stratégique, un cap le plus loin possible. Et puis la route pour atteindre ce point, on va la construire ensemble. Mais ce qui est important, c'est vraiment de fixer le cap.
J'ai compris que vous ne vouliez pas revenir sur l'aspect polémique parce que voilà, ça fait partie du passé et je conçois tout à fait. Mais par contre, vous avez, on va dire, bousculé le marché en l'obligeant presque à passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle. J'ai cru comprendre, hein, bien entendu, pour préparer l'interview, j'ai lu et j'ai essayé de m'informer sur ce qui s'était passé. Mais comment on gère humainement ce que vous avez traversé ?
Oui, il y a deux sujets, en fait. La transformation gêne, peu importe le secteur. Et donc, lorsque vous vivez en fait une transformation, un changement, personne n'aime le changement. Personne. Ça embête tout le monde et c'est gênant. Maintenant, quand vous êtes dans un marché qui a déjà changé, bah, vous n'avez plus le choix. Le marché des médias, en fait, c'est un marché qui n'avait pas évolué depuis longtemps. Et finalement, je suis avec vous et on fait un podcast aujourd'hui. Et je ne suis pas sur une émission de radio. Et finalement, l'audience que vous avez, qui croît chaque jour, il n'y a pas vraiment de croissance sur la radio aujourd'hui. Donc finalement, la question qu'on doit se poser et que se posent vos auditeurs, c'est de dire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas le podcast demain qui va venir remplacer la radio ? Je suis certain que vous êtes, vous, convaincu. Et je crois que vous avez raison. Et finalement, le pari que...
On se réserve qu'il faut trouver un modèle économique.
Mais... C'est l'autre sujet, celui-là. Mais finalement, notre premier client dans les médias, c'est le lecteur, avant tout. On verra après les financements, etc. Et finalement, on est passé d'un marché des médias dans lequel il y avait quelques canaux de diffusion, la télé, les magazines, la radio. Et aujourd'hui, finalement, vous en avez 200 des canaux de diffusion. Le podcast, le site web, les newsletters, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc le marché, il a déjà évolué. Donc le lecteur est déjà parti. Donc quand vous allez expliquer à des entreprises qui n'ont pas évolué depuis longtemps que son client, le lecteur, il est déjà parti, soit on se bouge pour rattraper le client, soit ça tapera le mur. Et c'est ça la réalité. Et donc finalement, quand vous êtes repreneur d'une entreprise, à un moment, je ne suis pas le porteur de la mauvaise nouvelle, je suis plutôt le porteur de la vérité en disant le marché a déjà changé. C'est pas moi aujourd'hui qui pousse les jeunes à nous regarder ou à nous écouter avec leur mobile plus que sur un écran d'ordinateur ou un magazine. C'est comme ça, c'est un fait. Donc, il faut vivre avec son temps. Et puis ensuite, comment est-ce que humainement on vit ça ? Il y a deux choses. Qu'il y ait des critiques, c'est normal. Quand vous commencez à devenir un acteur qui va dans le changement et qui en plus le maîtrise, le connaît, et que finalement au final les gens disent « zut, il a raison parce qu'il est devenu le plus gros, ça marche, etc. » Ah oui, c'est gênant, ça embête. Bon, après, finalement, il y a le côté aussi positif. Il y en a pas mal qui disent « mais en fait, c'est génial, enfin quelqu'un qui y croit, qui investit, etc. » Et finalement... plus ça va, et finalement, vous avez beaucoup plus de gens qui vous disent merci et c'est génial et qui vous suivent parce que finalement, l'avenir, il est dans ceux qui vont construire des choses et pas ceux qui vont en se plaindre. Et puis finalement, c'est encore une fois, c'est l'énergie entrepreneur. Moi, les gens qui viennent me voir, qui travaillent avec moi, ils vont vite être contaminés par mon énergie entrepreneuriale et je les emmène en fait dans un projet et c'est ça que les gens veulent vivre. Les gens, ils sont heureux parce que je donne de la vision, je donne du temps, on essaie de construire des choses et finalement, au quotidien, on prend plaisir à venir travailler le matin et ça, c'est ça qui est pour moi très important. Et le côté humain, en fait, ces projets, c'est vraiment des projets humains, une entreprise. La force, et je commençais par ça tout à l'heure, de Reworld Media, c'est la force de ses équipes aujourd'hui. Et vraiment, je trouve que c'est un projet humain avant toute autre chose. Et quand je parle avec les équipes ici, en fait, notre fierté collective, en fait, c'est sur cette histoire humaine entre nous. On se fait confiance, on grandit ensemble, on affronte les échecs ensemble, etc. C'est vraiment une histoire humaine. Et pour le coup, moi, je suis quelqu'un de profondément humain. Et finalement, progressivement, on fait venir autour de nous, comme ça, des gens qui sont en interne, en externe, etc. Et les 1200 personnes, à la rigueur, qui sont là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont venus à nous, qu'on a récupérés, qu'on a intégrés, mais qu'on a fait venir dans cette histoire entrepreneuriale. Donc, au final, je dirais qu'à partir du moment où vous avez suffisamment d'énergie pour entraîner les équipes avec vous, ça se passe très bien. Et vous avez toujours quelques réfractaires qui finalement, pour plein de raisons, n'ont pas envie de suivre le changement. Mais c'est très peu de personnes. Et puis voilà, c'est comme ça.
Concrètement, vous pensez avoir fait quoi pour le secteur de la presse magazine ?
redonner confiance et de la vision. Le secteur va très bien, c'est simplement qu'il a déjà changé et qu'il faut être capable de construire des choses différentes, à tout point de vue. Et finalement, le lecteur a déjà changé. Le deuxième client, qui est le premier client encore une fois pour moi, votre deuxième client dans un groupe comme ça, c'est l'annonceur, qui lui aussi a déjà changé, déjà évolué, il veut vous voir ailleurs. Et donc finalement, à nous, groupe média, de faire cette transition. Quand je regarde finalement aujourd'hui, mon lectorat, il est beaucoup plus sur un mobile, parce que c'est comme ça, 80% de mes audiences aujourd'hui se font sur un mobile.
Il lit beaucoup moins.
Il regarde beaucoup plus mes vidéos. Je dois produire entre 3 à 5 000 vidéos par mois. Donc finalement, je suis presque plus un producteur de vidéos que quelqu'un qui va écrire. Par contre, mes vidéos, en fait, comme elles sont lues sur mobile, c'est plutôt du 2 minutes maximum. Et puis, je me mets de plus en plus maintenant à faire des podcasts, tout comme vous. Et là, je reviens dans un temps long, qui est très agréable, parce qu'en 30 minutes, qui est mon temps moyen à peu près de nos podcasts chez nous, on a le temps de raconter des belles histoires, d'aller au fond des choses, etc. Et je retrouve un peu ce qu'on trouvait dans un magazine où on avait le temps d'écrire des choses. Internet, c'est bien en termes d'audience, mais en termes de contenu, c'est un petit peu gênant parce que c'est très court. Donc en fait, on a peu de temps. Alors finalement, vous faites passer plein de petits messages. Mais l'internaute, il est comme ça. L'internaute, en fait, il clique sans arrêt, il bouge. Ce que vous ne trouvez pas dans un magazine où je prends le temps de lire et finalement j'ai un temps long de lecture, ce que je n'ai pas non plus dans les podcasts, puisque j'ai un temps long parce que c'est un des médias que je peux écouter en faisant autre chose. Et ça, c'est intéressant. Et donc finalement, à nous, Groupe Média, de nous adapter à la posture du, j'allais dire, du consommateur, de l'auditeur, du lecteur, etc., en disant bah, finalement, voilà comment les gens vont consommer mon contenu, à moi de le produire.
Mais vous croyez encore au papier ?
En fait, je pense qu'aujourd'hui, chacun des leviers est important. L'un ne va pas remplacer l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'un remplace l'autre ou l'un sans l'autre, c'est l'un, plus les autres, etc. Finalement, quand je regarde l'audience que l'on peut avoir aujourd'hui, il y a un magazine papier, des podcasts, des chaînes YouTube, un site web, des newsletters, des chaînes télé, des événements, parce que finalement, le digital a aussi cassé le contact physique. Et maintenant, les lecteurs veulent se retrouver entre eux, entre passionnés. Et quand on crée un événement, les gens, ils adorent venir et se rencontrer. Donc finalement, c'est la somme de tout ça. Alors maintenant, par contre, c'est sûr que l'audience des groupes médias, elle est très fragmentée. C'est un peu de plein de choses. Et finalement, quand je regarde l'audience au global que l'on peut avoir, 54 millions de visiteurs uniques par mois sur nos sites, enfin, etc. En fait, c'est plein de petits trucs. Et quand on me demande des fois, mais c'est quoi la recette de cuisine ? Ben, en fait, c'est plein de petits trucs. C'est la somme de plein de petits projets qui évoluent tous les 6 mois. Et finalement, on est dans un marché aujourd'hui qui est fragmenté, qui est très technologique, il y a plein de technos partout, et qui va bouger probablement tous les ans, tous les 2 ans. Et c'est à nous de garder cette agilité pour anticiper en fait l'évolution du marché côté lectorat et côté annonceur.
Et donc, vous pensez naturellement que le métier de journaliste n'est plus ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans ?
Je pense que c'est le même, c'est la façon de l'exprimer qui va être différente. Ça veut dire que la façon de travailler dans le fond, de bien connaître un sujet, d'être capable de le restituer avec un avis, avec un engagement. Moi, j'adore, et c'est ce qu'on me demande chez nous, en fait, qu'on prenne des engagements et qu'on soit capable de dire, bah, on aime pas. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est très bien. Et c'est, en plus, c'est ce que le lecteur attend. Ce qui a changé, en fait, c'est que, bah, le format va changer. Le podcast, c'est différent. La vidéo est différente. L'écrit est différent. La photo aussi, etc. Donc, ça veut dire que finalement, sur le même sujet, il faut être capable de traiter l'information en fonction du format diffusion. Parce qu'en effet, on va pas, je reviens sur la longueur du format. Le podcast, une demi-heure, j'ai le temps. Sur Internet, vous n'avez pas le temps, donc vous allez poser 2-3 questions et il n'y aura pas plus loin. Parce que la vidéo, votre lecteur, il ne va pas aller plus loin que 2 minutes. Sur un article sur Internet, bah, c'est très court, donc c'est une news, pas plus. Alors que sur un article du magazine, ça va être beaucoup plus. Les événements, le hors-média, pour moi, c'est beaucoup plus la logique du magazine. C'est quelque chose de qualitatif dans lequel on a un temps long. Les gens, ils se déplacent, ils viennent et pouvaient garder longtemps. Donc en fait, il faut qu'on s'adapte à ce genre de choses.
Si je vous demande quelle est votre vision industrielle, enfin votre projet industriel au sens large, vous pourriez me dire quoi ?
Mon métier, c'est de produire un contenu de qualité qui va être lu par des passionnés et à moi, en fait, de les faire vibrer en fonction des supports de diffusion. Donc, si j'essaie de vous donner un exemple concret, dans l'automobile, on fait beaucoup de vidéos parce que les passionnés, ils adorent écouter le bruit du moteur dans la vidéo. Bah, c'est un truc de passionné, ça. Et puis finalement, je me rends compte que dans notre pôle déco, eh bien, ils vont adorer regarder nos magazines parce qu'il y a des belles photos et ils vont prendre du temps et ils sont assis dans un canapé. Et ça, c'est un truc de passionné, etc., etc., etc. Sur les recettes de cuisine, on va adorer regarder une recette de cuisine sur une vidéo parce qu'on peut revenir en arrière. Et puis finalement, il y a des belles images et puis finalement, on a faim. Et voilà, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que finalement, à partir du moment où on va passer cette passion, à travers, donc justement, on a la chance maintenant d'avoir du son, la vidéo, enfin, etc., le lecteur, il va être ravi. Et c'est ça, en fait, moi,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mon engagement, c'est de m'assurer en fait que de faire partager avec mon lecteur finalement la passion commune que l'on peut avoir.
Sur les 1200 collaborateurs que vous avez au sens large, quelle est la part de, on va dire, d'ingénieurs, de techniciens et de purement rédactionnels ? C'est-à-dire, c'est équilibré comment en fait en termes de ressources humaines ?
Comme la grande famille, c'est toujours des journalistes qui vont produire du contenu. Et encore une fois, le contenu dans toutes ses formes, hein, podcast, vidéo, etc. Mmh. Il y a des métiers nouveaux, c'est la partie technique, marketing. Parce que finalement, aujourd'hui, la différence entre un bon article et un article référencé en Google, bah, c'est une histoire de technique et pas de la qualité du contenu. Mmh. Parce que les règles pour faire du bon référencement, etc. Mais c'est très important. Mmh. Ensuite, il y a la partie régie, les commerciaux, le back-office, enfin, etc. Mais je pense que ce qui a vraiment changé dans ce secteur-là, c'est que nos équipes éditoriales sont amenées aujourd'hui à produire du contenu sur tous les supports. Et ça veut dire que c'est plus le format de Resume qui va changer, la vidéo, le podcast, enfin, etc. Et tous ces nouveaux métiers autour du marketing digital, le référencement naturel. Enfin,
mais ça implique de former ces équipes, non, quand même, au minimum.
Alors pour la partie marketing digital, c'est des nouveaux profils. Et finalement, quand je regarde le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est le secteur qui a une grosse croissance, où tout le monde galère pour recruter, parce que les écoles n'ont pas eu le temps de former. Alors c'est génial, parce que finalement, c'est un secteur qui embauche beaucoup, mais les écoles n'ont pas eu le temps de former. C'est des nouveaux métiers. C'est un mix entre des gens d'école de commerce et puis des gens plutôt d'école d'ingénieur. En tout cas, voilà, c'est bizarre. Il y a quelques écoles qui se créent. On a nous-mêmes investi dans une école qui s'appelle Digital Business School parce qu'on a du mal finalement à embaucher. Pour vous donner quelques chiffres, je crois qu'on a 250 postes ouverts sur ces formats-là, et c'est impossible de trouver sur Paris. Donc on embauche et on a ouvert un bureau à Aix-en-Provence, à Sophia Antipolis, à Nîmes, à faire Bordeaux, enfin, etc. Et on n'est pas les seuls. Hein. Quand vous regardez le marché du recrutement, je crois qu'on doit être à 50 000 postes ouverts et finalement, tout le monde cherche à aider justement et à pousser les écoles à créer ces profils.
Mais dans les gens qui sont partis, il y aurait peut-être eu des gens qui auraient voulu se former, non ?
Ça n'a rien à voir. Là, je vous parle bien de ces métiers techniques, hein, finalement.
D'accord, c'est purement technique. Mais s'il n'y avait pas un moment, une lisière, une manière de convertir des gens... Moi, c'est vraiment un sujet que je me pose. Hein. Mais même pas dans votre secteur uniquement, c'est dans tous les secteurs. C'est-à-dire que le monde se transforme, on voit que des métiers disparaissent, etc. Donc, je me pose personnellement la question de me dire « Ok, mais à un moment, il y a des gens qui sont plus compétents pour faire quelque chose, mais ce n'est pas de leur faute. Est-ce qu'on peut apprendre ces gens et tenter de les former ? Est-ce qu'économiquement, à un moment, ce n'est pas plus intéressant ?» Alors,
quand on regarde le marché du digital, c'est un marché de techniciens. Quand je regarde ce que font les écoles aujourd'hui, et finalement, y a plusieurs profils. Il y a des gens qui sont partis dans un cursus un peu scientifique. Je sais pas, des ingénieurs qui ont été formés dans la chimie, qui se retrouvent à 45 ans au chômage et parce qu'il n'y a plus d'emploi. Mmh. Et ces gens-là, vous pouvez les faire venir dans le digital parce que c'est un métier technique. Mais donc, ils vont faire des formations. Il y a pas mal d'écoles qui font ça. Et finalement, ce sont des bons profils. Mmh. Donc, c'est des gens qui vont comprendre la technologie et, pour faire simple, qui seront capables de programmer si vous programmez. Mmh. Et donc, c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment des nouveaux métiers. Et pareil, vous avez des gens qui ont fait des carrières dans le domaine du marketing assez traditionnel et qui finalement se mettent à comprendre le marketing digital. Mmh. Parce que finalement, aujourd'hui, encore une fois, quand vous faisiez il y a quelques années des plans marketing, on parlait de GRP, enfin des choses comme ça. Sur le digital, c'est un peu différent. On parle d'engagement, on peut mesurer les taux de clics, enfin, etc. Mmh. Et quand vous êtes du côté annonceur, bah, finalement, aujourd'hui, de plus en plus, les budgets des annonceurs vont vers le digital parce qu'on mesure tout, parce qu'on voit l'engagement, parce qu'on va générer des ventes, parce que le e-commerce. Il faut quand même voir que tous les annonceurs aujourd'hui qui sont dans le e-commerce, un marché qui n'existait pas il y a 20 ans, qui fait à peu près 100 milliards aujourd'hui, eh bien, ce marché du e-commerce, ce sont des gens qui ont, d'un point de marketing, ont appris à dépenser et qui, quelque part, c'est un marché à la performance. Je paye si ça clique, ou je paye si ça vend, ou je paye au lead. Quand vous regardez en fait, ce marché, les annonceurs ont appris aujourd'hui en disant « c'est super ce que vous faites, mais je ne paye que si ça clique ben ». Quand vous êtes dans un groupe média, vous ne pouvez pas dire autre chose en disant « oui, chez moi aussi, si ça clique ». Et donc finalement, ce marché n'existait pas il y a 20 ans, encore une fois. C'est le marché de Google, de Facebook, etc.
Au sein de tous les métiers que vous faites, parce que vous faites beaucoup de métiers, est-ce que vous pouvez juste parler de Tradoubleur, c'est ça ? petite définition rapide.
En fait, Traitobler, c'est une plateforme d'affiliation. Mais de façon plus générale, vous connaissez des sociétés type Riteo, etc. Et bien sûr, les Google et Facebook. Mm-hmm. C'est que depuis une vingtaine d'années, il y a un marché qui s'est créé avec des acteurs qui sont plutôt des éditeurs de logiciels qui monétisent de façon automatique en fait une partie de vos audiences. Mm-hmm. Et vous avez d'un côté donc une multitude de sites web qui ont été créés, qui cherchent tous à monétiser leur audience. Et puis de l'autre côté, vous avez des annonceurs qui ont appris finalement à acheter cette audience. Donc là, je ne vous parle bien que de choses sur Internet. Hein. Mm-hmm. Sur des modèles au clic, à la performance, à vente de leads, voire même un pourcentage du chiffre d'affaires. Mm-hmm. Et donc tout ce marché de la technologie, il s'est organisé. Et alors, pour essayer de donner une vision un peu globale, la moitié de ce marché est traité par les moteurs de recherche, Google. Et puis ensuite, c'est fragmenté entre des gens qui sont sur des plateformes d'affiliation, ce que fait Traitobler, des gens qui sont sur la partie emailing, des gens qui sont sur la partie de retargeting, ce que fait Criteo, etc. Les réseaux sociaux, etc. Facebook, enfin, etc., etc., etc. Donc finalement, ce marché qui n'existait pas s'est totalement créé avec des acteurs qui sont tous nouveaux et qui sont tous issus de l'édition logicielle.
D'accord. Si je vous demandais un SWOT, enfin, SWOT, c'est à savoir les forces, les faiblesses, les menaces concernant Reworm Media, vous me diriez quoi comme ça instinctivement ?
Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a probablement beaucoup moins qu'au début. Parce que quand on regarde en fait ces approches-là, c'est est-ce que vous êtes dépendant d'un client ? Non, parce qu'il y en a beaucoup. D'un média ? Non, parce qu'il y en a beaucoup. D'un lecteur, enfin, etc. La taille de Reworm Media aujourd'hui fait que avec 46 marques, avec les audiences, avec l'électorat, avec les clients, etc., c'est plus dur maintenant. Si on regarde maintenant des risques de marché, c'est le marché des médias va très très bien. Hein, une fois qu'on s'est dit tout à l'heure que finalement la restitution ou le format a changé et que le lecteur vous lit différemment, si vous êtes sur ce marché-là, ça va très bien.
C'est 10 milliards à peu près.
Oui, les podcasts, la vidéo, encore une fois, ça veut dire qu'aujourd'hui, le client, le lecteur, il est consommateur d'informations beaucoup plus qu'avant, tous les jours, sur tous les formats. Et c'est vraiment tous les jours, sur tous les formats. Alors que finalement, aujourd'hui, on est presque surexposé à l'information. Mmh. Donc quand on est un groupe média, moi je trouve que c'est génial. C'est-à-dire que mon temps d'exposition média, il est énorme par rapport à quelques années. Parce que plus de médias, parce que plus de formats, etc. Donc ça, pour ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors évidemment, je vous dis ça parce que je fais partie des gens qui ont su innover et ont su être présents sur les différents formats. Donc c'est sûr que si demain, vous êtes un groupe média et que vous ne voyez pas cette courbe de croissance et que vous êtes toujours sur une jambe, je sais pas, la radio, la télé ou la presse papier, c'est sûr que c'est difficile, vous voyez pas la croissance. Mais si vous avez anticipé, suivi en fait cette évolution et que vous êtes présent sur tous les leviers, alors tout va bien. Puis une fois que vous avez une croissance d'audience et que ça veut dire que finalement le lecteur consomme beaucoup plus d'informations et que vous êtes sur ce marché-là, bah finalement ensuite c'est une histoire de monétisation. Donc, mais si vous avez plus d'audience, vous aurez plus de revenus, c'est mécanique ça. Et finalement, Reworm Media aujourd'hui fait la croissance et la profitabilité parce qu'on connaît ces innovations et on est déjà présent sur les différents leviers.
Donc pas vraiment de menace et pas vraiment de faiblesse.
Mais non, non, il n'y a pas vraiment de menace. Et puis la taille maintenant fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus dur pour des gens qui démarrent. C'est-à-dire si demain je devais créer de zéro un projet dans les médias, ouais, c'est compliqué. Mmh. Et ça aussi, tout à l'heure on parlait un peu de l'expérience entrepreneur, c'est que je l'ai fait il y a 20 ans, je ne le ferai plus aujourd'hui. Entreprendre de zéro, c'est très difficile. Très difficile, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'entrepreneur, parce que j'en suis un, mais comme je fais aussi beaucoup d'investissements à côté, à travers des incubateurs là, comme 50 Partners, etc., c'est que je vois des gens qui démarrent avec une énergie incroyable, mais démarrer de zéro,
non,
c'est
mais je
super
pense qu'il faut
dur.
Le rappeler, parce qu'il y a plein de choses à reprendre aujourd'hui en France.
C'est super dur. Et c'est vrai que quand on rachète une entreprise, alors c'est un peu plus compliqué, etc. C'est plus facile quand vous appelez un client, que vous avez déjà une équipe, et vous dites oui, bonjour, je suis machin, telle société, etc. C'est quand vous êtes rien, c'est dur. Et pour le coup, je viens de là. Donc je sais que c'est dur d'appeler pour la première fois un client et qu'on lui dit bonjour, je crée une entreprise. Et alors maintenant ça va mieux, je trouve, parce que finalement on est dans un écosystème très pro-entrepreneur, c'est plutôt bien vu. Et à l'arrière, quand vous regardez les jeunes qui sortent d'école, ils veulent être entrepreneurs, c'est génial. Mais il y a une génération, les gens voulaient pas faire ça. Hein. Ils trouvaient un bon job, plan de carrière, etc. Donc ça a quand même vraiment changé. Aujourd'hui, finalement, c'est plutôt bien vu d'être entrepreneur.
Ouais. Et même tout le monde a tendance à vouloir être entrepreneur, même si je suis pas convaincue que tout le monde puisse l'être. Mais en tant qu'entrepreneur justement, comment vous tenez? Vous avez des rythmes ou un train-train sportif ou je ne sais pas, comment vous faites ?
Encore une fois, c'est cette notion d'énergie. On l'a et puis, alors moi, je considère que j'ai beaucoup de chance, mais j'ai cette énergie depuis longtemps. Je pense que je ne me plains jamais. C'est dans le travail, mais aussi à la maison. Les gens me voient toujours positif dans le travail, mais aussi à la maison. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, c'est une chance, je suis comme ça. Et donc, quand je vois des gens qui viennent me voir et qui se plaignent, je dis bah non, et j'essaie toujours de voir le côté positif. Mais c'est mon ADN, voilà. Et donc, finalement, ça m'amuse assez de voir des gens qui viennent me voir.
Des valeurs, selon vous, c'est quelque chose dont vous avez hérité?
C'est comme ça. Moi, je ne sais pas si j'ai hérité de ça, parce que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, mais c'est comme ça. Et donc, c'est un peu aussi des grains de folie, c'est-à-dire quand des gens viennent me voir pour me dire qu'ils ont un problème, j'essaie de trouver la solution très rapidement. Et puis, on travaille sur des nouveaux projets, j'ai suffisamment d'énergie pour contaminer les autres en disant allez, on y va et c'est parti. Et donc, finalement, je me retrouve plus un coach, un entrepreneur pour faire en sorte que ça avance. Et ça, c'est important. Donc, finalement, c'est l'énergie. Pour moi, quand je regarde d'autres entrepreneurs et quand je vois des projets où ils viennent me voir en tant qu'investisseur, c'est l'énergie.
Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je vais vous demander juste votre vision en termes de macroéconomique sur ce que traverse la France actuellement, autant socialement qu'économiquement. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et même, comment vous vous projetez, enfin, comment vous voyez les prochaines années de la France?
Il y a plusieurs choses. Il y a, encore une fois, des choses très positives, puis des choses qui sont assez tristes, dans lesquelles il y a un combat que l'on doit tous... on doit vraiment tous participer. Il y a une opportunité, je vais commencer par ça, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache finalement derrière les entrepreneurs? Ce sont des gens qui sont prêts à prendre en main leur propre destin. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Et finalement, il faut qu'on passe dans un système dans lequel on suivait un peu tout le monde, un peu moutonnier, en disant finalement, voilà, l'État fixe des règles, etc. Système d'entrepreneur, on se débrouille par nous-mêmes. C'est pas du tout un système individualiste, bien au contraire. C'est un système dans lequel finalement on va se responsabiliser et finalement on est là pour entraîner d'autres personnes, mais surtout être autonome. Et moi, je trouve que c'est bien. Il faut qu'on se responsabilise les uns et les autres. Il y en a qui sont plus capables que d'autres. Donc c'est aussi le rôle d'entrepreneur d'aider des gens qui sont pas vraiment entrepreneurs, qui ont envie d'y aller, etc. Donc finalement, moi je me considère comme ça, en tout cas j'ai un rôle pour transmettre ça. Et moi je passe pas beaucoup de temps pour faire ça, je vais vous donner quelques exemples.
Vous êtes investisseur.
Je suis investisseur, mais j'essaie de transmettre cette énergie et j'aide beaucoup de personnes autour de moi, dans le groupe, en dehors, etc. Quelques exemples. On a, avec Jérôme Mazurel, qui est le patron de 50 Partners, aider beaucoup d'entreprises. Et 50 Partners, c'est un incubateur dans Paris qui est génial, qui voit plus de 2000 projets, on en finance 10-15 par an, mais on accompagne des entrepreneurs à faire croître leur entreprise. Ça marche formidablement bien. Dans le cadre de Reworld Media et avec notre pôle B2B aussi qui s'appelle Net Media Group, avec des marques comme chef d'entreprise, marketing, etc., on a lancé un prix pour les femmes entrepreneurs qui s'appelle BioBoss, qui est un prix partout en France. On doit avoir dans une dizaine de villes maintenant 200-300 personnes, ça doit faire 5 ans, et on aide des femmes à être entrepreneurs. Et ça, c'est aussi intéressant parce que finalement, je trouve que les femmes entrepreneurs sont exceptionnelles, mais pour plein de raisons. Elles se posent trop de questions, elles ont toujours peur. Quand je demande à un garçon est-ce qu'il est prêt, il me dit oui. Et quand je demande à une femme est-ce qu'elle veut lancer son projet, elle me dit ouais, alors attends, peut-être qu'il faut que je réfléchisse. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Et finalement, ce quelqu'un d'autre, d'ailleurs, est souvent un garçon.
Et je vous invite à écouter le podcast de Valentine de l'Astérie, je vous l'enverrai.
Voilà. Et donc finalement, moi je dis, mais non, au contraire, il faut y aller. Donc on pousse beaucoup ça. On aide aussi beaucoup dans les régions. Parce que finalement, dans les régions, on voit des gens qui ont envie d'y aller, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le cursus scolaire, enfin, etc. Mais qui ont envie de se prendre en main. Et voire même des fois, ce qui est un peu triste, c'est qu'ils, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est ça ou le chômage. On a lancé une école là sur Alès, qui est à côté de Nîmes, Digital Business School, et finalement on trouve des gens très compétents, mais avec un taux de chômage qui est très fort, etc. Et donc finalement, dans les grandes villes, on est presque un peu, on est enfant gâté, parce que tout est facile ici, etc. Il y a trop d'argent, enfin, etc. Mais quand vous allez dans des villes de province, c'est pas la même chose. Donc finalement, c'est à nous d'avoir une responsabilité, de dire, finalement, on va aider à lancer des projets. Et finalement, on va peut-être venir avec peut-être des idées, peut-être des clients aussi, des choses comme ça. Donc il faut participer et aider. Donc ça, je le fais beaucoup. On a même été jusqu'à lancer, et on parraine d'ailleurs une initiative qui s'appelle Cocoricos Bouge ton coq, dans lequel on aide finalement des entreprises à se lancer. Alors là, on parle pas de capitalisme pour vendre le capital, faut oublier ça, mais quand vous avez un boulanger, une ville de province qui a besoin de 5000 euros pour acheter un nouveau four, il faut savoir donner. Et donc finalement, on a aidé cette plateforme de dons où justement demain, ils vont pouvoir donner pour soutenir des projets avec un impact social, mais très fort. Et quand c'est pas un grand mot, mon exemple du boulanger, il est réel. Ou un autre exemple, une femme qui n'avait pas d'emploi et qui s'est dit, finalement, je vais essayer de faire moi-même mes propres trucs et qui a décidé de faire des meubles de déco à base de pneus recyclés. Finalement, la meilleure chose qu'on a pu faire, c'est d'être client. Et donc finalement, j'ai acheté, une cinquantaine de pots en disant, mieux qu'un investisseur, il faut un client. Donc voilà, et ça c'est des c'est, et en, je demande rien en retour, mais finalement c'est des projets comme ça, j'en ai pas mal. On est en train de lancer encore des conférences et des projets autour de l'impact social, parce que encore une fois il faut être capable de donner du sens à ce que l'on fait. Donc nous on le fait dans l'entreprise, et si je prends l'exemple de Reworld Media pour vous donner des exemples, c'est que on partage la richesse. Très tôt, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis pas dans une logique en disant la richesse pour moi et le travail pour les autres. C'est pas ça l'idée. Je ne veux pas finir le plus riche du cimetière, comme on dit. C'est-à-dire, sur les 200 actionnaires dans le groupe, on a donné des actions. Et chaque année, avec Gauthier, on donne des actions. On donne des actions gratuites, enfin, etc. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que finalement, c'est notre entreprise. Que, je vais vous donner d'autres exemples. Quand on a décidé de faire des investissements, on a acheté l'immeuble dans lequel la société est. Ben, j'ai fait un mail à Hall, à tout le monde d'entreprise, en disant est-ce que vous voulez participer à l'achat de l'immeuble ? Certains ont répondu, d'autres non, mais ça veut dire que finalement, j'ai partagé la richesse. Quand vous avez un collaborateur qui vient me voir, et ça fait 20 ans que je fais ça, et qui me dit je démissionne parce que je vais être entrepreneur, 100% j'ai financé. Parce que je ne vais pas lui dire, bon non, t'as tort, tu devrais rester. C'est plutôt positif pour moi. Mais ça veut dire qu'il faut être capable d'aider. Et ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de dire, mais c'est encore une histoire d'aider. Donc en fait, je trouve que c'est important, c'est il faut savoir partager, il faut savoir donner, et il faut donner sans attendre. Parce que finalement, encore une fois, c'est comme l'entrepreneur qui crée un projet et qui pense à l'argent. Il ne faut pas penser à l'argent. Il faut penser à faire des choses avec le mieux possible. Et quand on fait les choses bien, l'argent viendra. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le but. Et puis si on a la chance d'avoir fait des projets qui marchent et qu'on a gagné de l'argent, il faut savoir le redistribuer, le redonner et aider ceux qui n'ont pas forcément eu la chance. Parce que pour moi, il y a une grosse partie de chance dans la réussite quand même.
Donc c'est ça ce que vous diriez sur la France ? Eh bien, c'est pas mal résumé,
ça.
Hein, oui.
C'est ça. Ouais. En fait, ce que je retrouve, moi, je suis assez admiratif. Il y a des entrepreneurs assez emblématiques en France, un Xavier Niel, un Marc Simoncini. Voilà, c'est pour moi, j'admire ces gens, un Bernard Arnault, enfin, etc. C'est une autre génération, mais j'admire. Et puis finalement, c'est un super exemple pour nous. Donc moi, je préfère admirer des gens qui réussissent parce que c'est bien. Et puis tous, d'ailleurs, je sais pas. Quand je vois un Marc Simoncini, ce qu'il fait à travers les émissions sur M6, etc., moi j'adore. Il faut donner de l'énergie parce qu'il y en a beaucoup et c'est génial. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut arriver à aider ceux qui ne croient à rien en disant mais si, vous avez raison, il faut y aller. Et donc finalement, moi je suis assez confiant quand je regarde finalement une nouvelle génération et pour répondre aux questions sur ce qui peut se passer en France, c'est qu'on est pro-entrepreneur. Et finalement, là où il y a des gens qui sont un peu dans la galère aujourd'hui, je pense que c'est pas facile. Il faut les aider à s'en sortir parce que voilà, il faut pas compter que sur l'État, parce que finalement, être entrepreneur, bah, c'est un truc qui va se passer en discutant entre nous. Parce que si demain vous cherchez à monter une boîte et que vous allez voir, je sais pas, la NPE ou une agence, ils savent pas comment ça marche. Un entrepreneur, c'est un truc d'entrepreneur. On est capable de dire comment ça marche. C'est comme si demain, vous vouliez vous lancer dans un sport et que vous allez voir quelqu'un qui a jamais pratiqué ce sport. Il ne saura pas vous apprendre. Bah, c'est pareil.
Vous faites du sport ?
J'en fais beaucoup, ouais.
Ah, c'était ma question tout à l'heure pour savoir. Vous faites quoi comme sport ?
Je cours, je fais du VTT, du ski, du tennis, enfin tout ce que je peux.
Ok. Je dis ça parce que c'est souvent un point commun avec des entrepreneurs. Encore deux questions. Si vous aviez un coup de cœur et un coup de gueule, ça serait quoi ?
Le coup de gueule, ce qui m'agace en France, c'est que les gens sont trop souvent en train de se plaindre de tout. C'est ce côté râleur que l'on a en France. J'en fais partie, on râle. C'est rien. Et finalement, faut juste essayer de comparer, parce qu'on est toujours, c'est mieux à côté. C'est pas vrai. La France, c'est un pays formidable. Moi, je suis ravi d'être en France. Et pourtant, je sais, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, mais je trouve ce pays est formidable. Il est beau, les gens sont sympathiques, on mange bien. Enfin, la vie est super ici. Et puis, quand je vois tous ceux qui se plaignent aussi sur le côté entrepreneur en France, la fiscalité, ça va, faut pas se plaindre. C'est quand même un pays dans lequel il y a tout à faire. Et clairement, en tout cas, depuis la nouvelle présidence, c'est quand même pro-entrepreneur et c'est super pour nous. Je donne des exemples. Quand je vois ce qu'a fait la BPI, c'est génial la BPI. Pour moi, il y a eu avant et après. Donc, la BPI est les entrepreneurs. On était là, il y a pas longtemps, on avait fait un événement avec Patrice Béguet, la BPI. Il a fait un truc incroyable. Donc, il y a des gens comme ça qui ont une énergie folle et je trouve ça formidable. Donc, c'est-à-dire que mon coup de cœur, c'est les entrepreneurs. Moi, je suis pro-entrepreneur parce que c'est eux qui vont prendre en main leur destin, qui vont créer des emplois, etc. Parce que encore une fois, dans les grands groupes, c'est difficile parce que le système, il est souvent un peu trop sclérosé. C'est un grand groupe, il est dicté par des profits, des trucs comme ça, et c'est dur de changer. Dur. Quand on crée une boîte, en fait, c'est facile quand on part de zéro, de donner une culture différente, de donner du sens à ce que l'on veut faire, etc. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est un peu les quelques idées, quoi.
Je sais qu'il faut qu'on s'arrête parce que vous devez vous libérer, mais merci beaucoup en tout cas. pour cet échange. Et puis, bah, bonne route alors.
Merci beaucoup.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.